بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 20 dans l'explication du Kitab al-Tawhid, le Sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'intitule Qurratu Uyun al-Muwahidin. Et c'est le petit-fils de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Abdurrahman ibn Hassan. Et avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, du Sharh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc c'est un Sharh très très intéressant, vraiment bénéfique. Donc on est arrivé dans l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, le hadith qui s'est rapporté selon Ubadat ibn Samit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqqun wa annara haqqun adkhalahu allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Donc on avait expliqué dans le hadith toute la première partie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui quiconque témoigne que de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, lui seul, sans aucun partenaire, il n'a pas de partenaire ou d'associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam, et une âme venant de lui. On a expliqué tout ça au dernier cours. Maintenant, on est arrivé à la partie où il dit, et qui témoigne que le paradis est véridique, ou vérité, et que l'enfer est vérité. Allah le fera rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait comme action. D'accord. Donc, on va maintenant expliquer cette partie-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit: wa anna al-jannata allati wa'adaha Allahu al-muttaqina haqq wa anna an-nara allati wa'adaha Allahu al-kafirina haqq wa fi hadha raddun 'ala al-malahida alladhina la yu'minuna bil-jannati wan-nar wa la bil-ba'thi wal-hisab wa raddun 'ala al-mushrikina alladhina yajhaduna bil-ba'thi wal-jaza'i yawm al-qiyamah faman i'taqada hadha فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق قاله واعتقده ونطق به أدخله الله الجنة وهذا وعد من الله تعالى بسبب توحيده أن يدخله الجنة ويؤمنه من العذاب وهذا فيه بيان فضل التوحيد وأن صاحبه آمن min al-azab yawm al-qiyamah. Donc le cheikh explique ici que le paradis, c'est le paradis que Allah a promis pour ceux qui sont pieux, Allah a promis à ceux qui sont pieux, ce paradis là il est vérité, et l'enfer que Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux mécréants, il est vérité, et il y a dans ça une réfutation des athées ou de ceux qui ne croient pas au paradis et en l'enfer, et qui ne croient pas non plus en la résurrection et au jugement, au jour de la résurrection. Il y a dans ça également une réfutation des mushrikines, qui rejettent la résurrection et la rétribution au jour du jugement, au jour de la résurrection. Donc quiconque a cru en tout ce qu'on a mentionné, le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam, et un âme de sa part, et que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, celui qui l'a dit, il a cru en cela avec conviction, et il a prononcé cette parole, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et il dit, et ça c'est une promesse de la part d'Allah à cause de son tawhid. Allah va le faire rentrer au paradis et va le sécuriser, va le protéger du châtiment. Et donc, il y a ici la clarification de l'excellence et du mérite du tawhid, hein, de la grâce qui est reliée au tawhid. Et que la personne qui a établi, qui a cru en le tawhid, va être protégée, hein, et en sécurité vis-à-vis du châtiment au jour de la résurrection. Et c'est ça le titre du chapitre qu'on est en train d'expliquer maintenant, Fadlu Tawhid, hein, wa ma yukaffiru min adh-dhunub, c'est-à-dire l'excellence ou le mérite du Tawhid et ce qu'il expie comme péché. Le Cheikh il explique ensuite, il dit ala ma kana min al-amal. Qu'est-ce que ça veut dire ala ma kana min al-amal? Yaqul law kana 'indahu dhunub wa ma'asi dun ash-shirk فإنه موعود بدخول الجنة إما أن يدخلها ابتداء من غير تعذيب وإما أن يدخلها بعد تعذيبه في النار وقيل معنى على ما كان من العمل أي أنه تكون منزلته في الجنة بحسب عمله لأن أهل الجنة يتفاوتون في الجنة في منازلهم بحسب أعمالهم ولكن الظاهر هو المعنى الأول فهذا الحديث حديث عظيم وفيه البراءة من الأديان الثلاثة دين المشركين ودين اليهود ودين النصارى ودين المشركين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ودين اليهود الذين لا يشهدون برسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ودين النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة وهذا موجود في كتبهم التي يزعمون أنها الأناجيل وهي كذب وبهتان وهم الذين كتبوها وزوروها وليست هي الأناجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام بل هي أناجيل محرفة ومزورة ومدخل فيها من الشرك والكفر ما لا يعلمه إلا الله. Donc le cheikh il explique ensuite que avec ce qu'il avait comme action, ou il va rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action, c'est-à-dire que même si la personne avait des péchés, même si la personne avait des désobéissances ou des péchés qu'il avait commis qui sont moindres que le shirk, alors il est malgré tout promis, hein, au paradis et il entrera au paradis. Et même s'il il n'entre pas, donc il dit c'est soit qu'il va rentrer au paradis directement sans châtiment, ou il va rentrer au paradis après avoir été châtié dans l'enfer, mais il ne va pas y demeurer éternellement parce qu'il n'a pas commis de shirk. Et il dit c'est ça la signification de avec ce qu'il avait comme action. Une autre explication aussi, c'est que ça veut dire que la personne entrera au paradis selon ce qu'il avait comme action et il aura dans le paradis un degré selon ses œuvres. C'est-à-dire que dans le paradis, c'est pas tout le monde qui seront au même étage ou bien au même degré dans le paradis, puisque les degrés des hommes, hein, et des femmes au paradis seront selon leurs œuvres et leurs actions. Mais le cheikh il dit que le sens le plus apparent de qu'est-ce qui est mentionné ici, c'est la première signification qu'on a mentionnée. Ensuite, il explique, le cheikh il revient à la signification du hadith en général. Puis il dit que ce hadith-là est un grand hadith, un hadith très grand, très important. Et il y a dans ce hadith-là le désaveu vis-à-vis des trois religions. Et c'est quoi ces trois religions? C'est la religion des mouchriquins, la religion des juifs et la religion des chrétiens. Donc il explique l'exemple de ce désaveu-là et ce rejet-là. Et il explique la réfutation qui est mentionnée dans le hadith. Parce que la personne qui lit ce hadith-là, peut-être elle ne va pas nécessairement voir où est-ce qu'elle est la réfutation. Hein? Où est-ce qu'elle est la réfutation des mouchriquins, des juifs et des chrétiens dans ce hadith-là? Eh bien, le cheikh, il explique. Il dit que la religion des mouchriquins, hein, c'est ceux qui refusent de dire « La ilaha illallah » ou qui refusent de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, le hadith réfute les mouchriquins dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique qu'on doit témoigner du message, de croire en le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le message de Isa alayhi salam. Et ça, ça vient contredire ou réfuter les Juifs. Parce que les Juifs, eux, dans leur religion, ils refusent de croire en Isa et ils refusent de croire en Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc c'est une réfutation des Juifs. Et le hadith comprend également une réfutation des chrétiens, parce que les chrétiens, dans leur religion, ils croient que Jésus, c'était le Fils d'Allah, ou bien que c'était Allah lui-même, comme les chrétiens parfois qui disent que Jésus c'est Dieu incarné, ou Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui est devenu chair. Une expression qui donne des frissons en fait, quand on entend ça. Allah al-musta'an, Dieu qui s'est fait chair, Nasarullah al-afiyah. Donc subhanallah. Et également ils prétendent parfois aussi que Dieu c'est une trinité, que Dieu n'est pas une unité mais une trinité, trinité qui vient du chiffre 3. Et donc ils l'expriment en disant que Dieu est divisé en trois personnes: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils prétendent que ces trois-là ne forment qu'un. Donc quand tu leur demandes est-ce que vous croyez en un Dieu unique, ils disent oui, on croit en un Dieu unique. Sauf que leur Dieu unique c'est trois. Ça c'est une contradiction totale. Et le cheikh il dit ça c'est présent dans leur livre. Et eux ils croient que Isa, Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu ou des choses de ce genre. Et ils prétendent que ça c'est présent dans leurs évangiles. Et ça c'est du mensonge et c'est de la calomnie. Et il dit en réalité ces livres là c'est eux qui les ont écrits. Ce ne sont pas les évangiles qui ont été révélés à Isa réellement. Donc ce sont d'autres livres. Les évangiles qu'ils ont aujourd'hui sont des évangiles qui ont été falsifiés et changés, et on sait comment elles ont été ajoutées dans la Bible à l'époque de Constantin, avec l'empereur Constantin au concile de Nicée. Donc tout ça, ils ont fait rentrer dedans du shirk et du kufr. Et il dit ma la ya'lamuhu illallah, yani c'est seulement Allah qui sait combien de kufr et de shirk il y a dans ce livre là. Il y a une question qui a été mentionnée en note de bas de page à propos de cette question à propos de ce sujet. Su'ila shaykhuna hafizahu Allah 'an at-tahrif al-waqi' fi at-Tawrah wal-Injil, hal huwa tahrif li-alfadhihima am ma'anihima? Fa ajaba: تحريفهم شامل لتحريف اللفظ وتحريف المعنى، بل أدخلوا فيها ما ليس منها من تنقص الله عز وجل ونسبة الولد إليه، والباقي منها حرفوه لفظا أو معنى. انتهى كلامه. Donc la question qui avait été posée au Cheikh Al-Fawzan, c'est est-ce que par rapport à cette falsification de la Torah ou de l'Évangile, est-ce que c'est une falsification du texte ou de la signification? Et le cheikh il répond, il dit c'est une falsification qui comprend à la fois le texte et la falsification de la signification aussi. Et il dit qu'ils ont même fait rentrer donc dans le texte ce qui n'en faisait pas partie, comme dénigrement ou rabaissement ou insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'attribution d'un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le reste ce sont des falsifications du texte et de la signification également. Donc ça c'est la fin de cette réponse. Après le cheikh il continue, il dit wa yunadun al-ana bihadha fi idha'atihim wa yuwazzi'un al-anajil wa yubashshirun bidin al-masih fi za'mihim wa kadhabu. ليس هذا هو دين المسيح ولا دين أي أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو دين الشرك، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كإخوانه من المرسلين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وهذا الذي أمر به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وإنما هذا من افترائهم وكذبهم، وسيفضحهم الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حينما يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أنت تعلم ما يصدر مني حتى ما لا أتكلم به أو حتى ما لم أتكلم به حتى ما في قلبي ونفسي قبل أن أتكلم فأنت تعلم أنني لم أقل هذه المقالة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم هذا الذي أمرهم به عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من إخوانه النبيين فالأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولم يأتي نبي من الأنبياء بالشرك حاشا وكلا الشرك خلاف دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام فكيف ننسب إلى عيسى أو ننسب إلى عيسى عليه السلام من بين الرسل أنه دعا إلى الشرك Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit, ces gens-là, aujourd'hui, ils appellent dans leur radio, dans leur chaîne de radio, des radios bibliques, des radios chrétiennes, hein, ils font leur da'wah par la radio, et même quand tu vas en Arabie Saoudite, des fois il y a des chaînes de radio comme ça qui laissent entendre des prêches chrétiennes en arabe, parce qu'ils essaient de christianiser les musulmans. Hein? Et ils propagent ils distribuent leurs évangiles. Hein? Ils les donnent même parfois gratuitement dans la rue comme ça. Hein? Et ils annoncent la bonne nouvelle hein, de la religion de Jésus comme ils prétendent. Et ils ont menti. Ils disent cette religion qu'ils enseignent n'est pas la religion de Jésus le Messie. Hein? Et il dit et ce n'est pas non plus la religion d'aucun d'entre les prophètes. Alayhi salat wa salam. Parce que la réalité, c'est que leur religion actuelle, c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Hein? Ce n'est pas la religion de Jésus, fils de Marie. Et il dit que parce que Isa, hein, Jésus, alayhi salam, de la même manière que tous les autres parmi ses frères prophètes, hein, parmi les messagers que Allah a envoyés, qui sont tous des frères, ils ont tous appelé les hommes au tawhid. À l'unicité d'Allah et à l'adoration d'Allah unique. Et ils ont tous interdit le shirk, c'est-à-dire d'adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 117, dans surat Al-Ma'idah, le dialogue ou la discussion qu'il y a entre Allah et Jésus au jour de la résurrection. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui demande... Hein, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens est-ce que toi tu as ordonné aux gens de t'adorer en dehors d'Allah hein, en dehors de moi Allah lui demande est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer toi et ta mère hein, en dehors de moi et il dit Isa alayhi salam il répond il dit je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire c'est-à-dire d'adorer Allah seul hein, qui est mon Seigneur et votre Seigneur et ces paroles-là textuellement on les retrouve même dans les paroles attribuées à Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, hein, mon Dieu est votre Dieu, hein, mon Seigneur est votre Seigneur. Donc ça veut dire que, ça c'est le réel enseignement de Jésus, c'est la foi en le tawhid. C'est la même croyance que la croyance islamique par rapport à Dieu, qu'il y a un seul Dieu unique et qu'il n'est pas une trinité, il est unique et un, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré et il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui donc on n'a pas le droit d'adorer ni Jésus, ni Marie ni un homme pieux ni un saint, ni un ange ou quoi que ce soit d'autre ou une image ou une croix c'est seulement Allah qui mérite l'adoration et qui a le droit d'être adoré hein? Et donc le Cheikh il dit ça c'est ce à quoi Isa a appelé les hommes. Il n'a jamais dit aux gens « Prenez-moi comme une divinité » ou « Adorez-moi et ma mère hein, ». Nulle part tu trouves ça dans la Bible. Même la Bible falsifiée qu'ils ont aujourd'hui, il n'y a nulle part dedans où Jésus dit aux gens « Priez-moi ou adorez-moi hein? ». « Innama hada iftira'uhum wa kadhibuhum » Ça, c'est leur mensonge. Hein? C'est leurs mensonges et leurs inventions et leurs fabrications. Ils ont même, je me rappelle même un passage dans le Nouveau Testament où ils disent que Jésus s'était retiré dans le désert pendant 40 jours et qu'il a été éprouvé par le diable. Le diable est venu, puis il a dit à Jésus, prosterne-toi à moi, puis je vais te donner tout ce que tu vois là. Hein? Déjà comment, si Jésus était Dieu, déjà comment le diable viendrait pour lui offrir ça? Hein? Le monde entier appartient à Dieu, et toi tu viens, hein, le diable, Iblis, il vient, une créature d'Allah, il vient, et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ça. Ça lui appartient déjà, comment il va lui donner? Si c'était Dieu, hein? Et puis après, Jésus lui a répondu, il lui a dit, tu sais très bien que personne n'a le droit de se prosterner, excepté devant Dieu. Donc déjà Jésus lui répond en lui disant non, j'ai pas le droit hein, de me prosterner devant personne d'autre excepté Dieu. Donc ça c'est la preuve même que Jésus il est pas Dieu lui-même, hein, et qu'il est en train de lui expliquer le tawhid, hein. Il le réfute, il réfute le diable en lui expliquant que c'est seulement à Dieu qu'on doit se prosterner. Donc ça c'est un exemple et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Hein? Quand dans l'évangile, quand c'est écrit un homme qui est venu voir Jésus lui a dit bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, et puis que Jésus lui a répondu ne m'appelle pas bon, seulement Dieu est bon, hein? Seulement le Créateur est bon. Et dans d'autres versets il y a des exemples comme ça, il y en a plein, hein? Donc tout ça c'est pour dire que hein, les croyances de Jésus et les enseignements de Jésus, le fils de Marie, ça, c'était les enseignements de l'islam à propos de la foi en Dieu, c'est-à-dire de croire en un Dieu unique et de ne rien adorer autre que lui. Ça, c'est le vrai message de Jésus. Les vrais enseignements de Jésus, c'est ça. Et lorsque, au jour de la résurrection, les chrétiens vont venir hein, devant Dieu pour se faire juger, Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question à Jésus en disant « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit à ces gens-là de te prendre toi et ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus qui va répondre et qui va dire « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Hein? Et si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Hein? » Il dit « Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. » C'est-à-dire même avant même que Jésus parle, même des choses qu'il n'a pas dit, des choses qui sont dans son cœur et dans son âme, avant même de le dire ou de le prononcer, Allah il le sait déjà. Hein? Donc s'il l'aurait dit, il dit, si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et c'est toi qui connais l'invisible. Et il dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire, c'est-à-dire d'adorer Allah seul, mon Seigneur et votre Seigneur. Et c'est ça hein, à quoi Jésus a appelé les hommes, ainsi que tous les autres parmi ses frères prophètes et messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité. Ils ont tous enseigné aux hommes le tawhid, l'unicité d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, le verset 36 dans sourate An-Nahl, nous avons envoyé dans chaque nation un messager en disant aux hommes, adorez Allah seul et écartez-vous du tawhid. Le tawhid, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Écartez-vous du shirk et du tawhid. Et il dit qu'il n'y a pas un prophète parmi les prophètes qui serait venu pour enseigner aux hommes le shirk. Jamais. Hein? Le shirk, c'est l'opposition et le contraire de la da'wah des prophètes, de tous les prophètes. Alors comment on pourrait attribuer à Jésus hein, qu'il serait venu parmi les différents messagers, qu'il serait venu enseigner aux hommes l'idolâtrie et le shirk? Ça fait pas de sens. Hein? Et à chaque fois je le dis, à chaque fois quand je parle avec les chrétiens, je dis, tous les prophètes qui sont venus, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, hein, Ismaïl, Moïse, Joseph, Salomon, David, tous les prophètes que Allah a envoyés, ils ont tous adoré Allah seul. Et puis quand Jésus il vient, même dans l'évangile c'est écrit, mon Dieu c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Hein? Alors le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, est-ce que c'était Jésus? Est-ce que c'était une trinité? Jamais de la vie. Hein? Leur Dieu c'était Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le seul qui mérite d'être adoré, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui que nous devons adorer seulement. Et donc, Jésus lui-même, il a confirmé le message des messagers précédents. Et il a confirmé que sa divinité, celui qu'il adore, c'est le même que celui que Abraham adorait, ainsi que Isaac, ainsi que Jacob, ainsi que tous les messagers. Donc, d'où est-ce qu'ils sont venus avec cette idée de Trinité? Ça vient des Grecs, ça vient des Romains, ça vient des Mouchriquins, ça vient pas de l'islam, ça vient pas de l'enseignement de Jésus. Ils ont pris les enseignements des Romains qui croyaient en Jupiter, en Neptune, en je sais pas quelle autre divinité, les étoiles, les trucs, et Zeus, hein, dans la mythologie grecque, qui avait des femmes à gauche et à droite, qui faisait des enfants avec elles, hein, des femmes humaines, il faisait des enfants avec elles, des fois il faisait tomber la pluie sur une, ou bien qui faisait. Et ça c'est dans leur mythologie. Et après ils avaient des demi-dieux, hein. Zeus, il avait des enfants avec ces femmes-là, ça devenait des demi-dieux. Hercule, Persée, hein, ces gens-là qui sont connus comme étant des héros dans les histoires de la mythologie grecque. Tout ça, c'est des choses qui ont été utilisées pour inventer la religion qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que Jésus a enseigné, ni aucun d'autre d'entre les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité. D'accord? Donc l'idée de rédemption, qu'il faut qu'il y ait un homme qui meure, il faut qu'il y ait un sacrifice humain, il faut que le sang d'un homme pur coule pour que le péché des hommes soit effacé, ça fait même pas de sens, hein? Ça fait aucun sens. Et la seule façon que quelqu'un peut croire en ces choses-là, c'est si on lui a, Non, c'est pas un lavage de cerveau, parce que dans ce cas-là, c'est le contraire d'un lavage, hein. Là, c'est comme si on l'a raboté, tu vois. On lui rabote cette idée-là depuis la naissance, hein. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est mort pour toi, il est mort pour tes péchés. On te répète ça depuis que t'es petit, ça devient presque comme si, hein, une chose tellement qu'on te l'a répété des millions de fois que tu peux pas faire autre chose que y croire. Hein? C'est ça, c'est exactement ça. Donc quand t'es petit, on te raconte ça. Subhanallah. Quand j'étais au primaire, on faisait les cours de catéchèse. Les professeurs ils prenaient les enseignements religieux, puis là ils disaient: si tu fais mal à ton ami, tu fais mal au petit Jésus, hein? C'est ça qu'il nous enseignait, comme ça, tu vois. Comme s'il ne faut pas faire mal aux autres, parce que si tu fais mal aux autres, tu fais mal au petit Jésus. Comme si pour les enfants, Jésus c'est un petit, parce que c'est un enfant. On était des enfants, donc il parle de petit. Et quand tu es grand, il te parle de Jésus comme d'une autre façon. Et que les chrétiens, souvent, ils disent qu'il faut imiter Jésus. OK? D'accord, s'il faut imiter Jésus, regarde parmi les chrétiens et les musulmans, entre les chrétiens et les musulmans, qui est-ce qui ressemble plus et qui imite plus Jésus? Et qui est-ce parmi les chrétiens ou les musulmans, si on compare, lesquels imitent plus les prophètes? Est-ce que c'est les chrétiens ou c'est les musulmans? Même dans la façon de prier, même dans l'habillement, même dans la façon de vivre. Regarde les femmes musulmanes et regarde Marie. Comment les femmes s'habillent, comment Marie s'habillait, comment les femmes musulmanes s'habillent. Quand tu regardes les gens, les chrétiens, tu regardes les musulmans, même regarde, compare avec les juifs. Lesquels imitent plus les prophètes? Quand tu regardes bien, tu vois clairement que ceux qui imitent plus les prophètes, c'est les musulmans, c'est pas les juifs ni les chrétiens. Donc, celui qui veut vraiment suivre l'exemple de Jésus, et qui veut être selon son exemple, il va faire comme les musulmans. Il va suivre l'exemple des musulmans. Jésus, ils l'ont dit, quand il était dans le jardin des Oliviers, il s'est prosterné, il pleurait dans sa prière. Prosterné, hein? Il était prosterné. Tous les prophètes dans la Bible sont mentionnés comme c'est un prosterné, tombé par terre, le front par terre, hein? Humilié devant Allah en humilité et avec, dévotion, ils priaient, ils pleuraient par crainte d'Allah. Ça, c'est l'exemple des prophètes. Et c'est qui est-ce qui prie comme ça? C'est les musulmans seulement. Hein? Les chrétiens, ils ne prient pas comme ça, ils ne se prosternent pas. Hein? Quand tu vas à l'église, tu vois, il y a des bancs partout. C'est des bancs en bois, là. Tout le monde s'assoit, puis ils écoutent le prêtre. Quand tu rentres dans la mosquée, il n'y a pas de bancs. Hein? Tu te mets par terre, tu te prosternes. Hein? Également, les chrétiens, dans leurs églises, tu rentres, tu vas voir des croix sur le mur, tu vois des images, tu vois des statues, tu vois des, hein, toutes sortes d'icônes, des images des anges, des trucs comme ça. Et puis les gens, ils vont là-bas, ils se mettent à genoux devant les statues, et puis là, ils prient. Hein? Ils prient devant les statues. Est-ce que tu as déjà vu que Jésus, dans ses enseignements, il a dit aux gens, allez là où il y a des statues, mettez-vous à genoux devant, priez devant ces statues-là? Jamais! Il n'y a aucun prophète qui a enseigné ça. Au contraire, même, dans tout, même dans les 10 commandements les plus importants, hein, dans la Bible, les 10 commandements, le premier, il vient interdire ce genre de pratique. Comment ces gens-là prétendent par la suite qu'ils suivent Jésus? Où est-ce qu'ils suivent Jésus? Jésus n'a jamais fait ça, il n'a jamais enseigné ça. Au contraire, il a interdit ça. Hein? Donc, celui qui veut vraiment suivre l'exemple de ce que Jésus a réellement enseigné, il n'a pas d'autre choix que d'être un musulman. Et en même temps, un musulman ne peut pas être un vrai musulman et son islam ne sera pas valable tant qu'il n'a pas cru en Jésus. Parce que de croire en tous les messagers, c'est une condition pour la foi dans l'islam. Donc, ce n'est pas juste un élément secondaire dans l'islam. Tu peux croire en lui ou ne pas croire, non. En tant que musulman, on est obligé de croire en Jésus, de la même manière qu'on est obligé de croire en Abraham, Moïse, Jacob et tous les autres prophètes. Et en même temps aussi, on croit en le dernier des messagers, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit qu'on croit en le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on croit en lui de la même manière qu'on croit en les autres messagers, et on croit également que c'est le dernier des messagers et que sa charia, sa loi, est venue abroger les messages, les législations des prophètes précédents. Mais on ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la manière dont les chrétiens croient en Jésus. Parce que souvent les chrétiens, ils pensent ça. Ils disent, pour vous les musulmans, votre prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous, donc vous priez à Mohammed, hein? Vous lui faites des prières. Non, jamais. On ne prie pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prie seulement à Dieu. Et si un musulman prie à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient mushrik. De la même manière qu'un chrétien qui prie à Jésus devient mushrik, de la même manière qu'un musulman qui prie à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient mushrik. Donc il sort de l'islam. On n'a pas le droit de prier à un être humain, peu importe qui il est. Et on n'a pas le droit de prier à un prophète, peu importe qui est ce prophète, que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit Jésus, ou que ce soit un autre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, quand les chrétiens entendent ça, ils sont tellement surpris, des fois. Ils sont tellement surpris, ils disent, ah, on ne savait pas ça. On ne pensait pas que c'était ça l'islam. Et il y en a même qui disent des fois, ben si c'est comme ça l'islam, dans ce cas-là, j'étais déjà musulman. Je croyais déjà en l'islam. Hein? Et moi, c'est la même impression que j'ai eue quand j'ai découvert l'islam au début, lorsque je me suis converti. J'ai dit, j'ai toujours été musulman dans mon cœur parce que je croyais toujours en ça. Je croyais toujours en cette façon. Hein? Donc ça nous montre la grandeur de la religion d'Allah. Ensuite, le cheikh, il dit, « Qawluhu ». Donc ça, c'est les paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, okay, qui explique maintenant le hadith. Il dit, « Qawluhu, man shahida, la rayba anna shahada, la takunu shahadatan illa idha kanat an ilmin wa yaqinin wa sidq. Amma ma'al jahl wa shak, fala tu'tabar wa la tanfa'. Fayakunu shahidu wal halatu hadihi, الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهدته أو شهده. Le cheikh, il dit, celui qui dit, bon, dans le hadith, il dit, quiconque témoigne, yani shahida, et il explique qu'il n'y a pas de doute que le témoignage que tu fais, il ne sera pas un témoignage valable, excepté si, lorsque tu l'as fait ce témoignage, tu avais la connaissance de ce en quoi tu témoignais, tu avais la conviction de, que ce que, en quoi tu témoignais était la vérité, et que tu étais véridique lorsque tu as fait ton témoignage. Tandis que la personne qui fait son témoignage avec ignorance ou avec des doutes, eh bien, ce témoignage-là ne sera pas pris en considération et ne sera pas profitable. Et il dit que, parce que dans ce cas-là, la personne, elle témoigne, mais elle est dans, en train de mentir. Hein? Et elle est en train de mentir parce qu'elle ignore qu'est-ce qu'elle est en train de dire ou ce en quoi elle est en train de témoigner. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, الشهاده ليست مجرد لفظ لا بد من النطق ومعرفه المعنى والاعتقاد بالقلب والعمل به ظاهرا وباطنا. Donc le témoignage, c'est pas seulement une parole que tu prononces avec ta langue, hein? Il faut que tu le dises avec ta langue, mais aussi il faut connaître sa signification, il faut y croire avec conviction dans ton cœur et il faut le mettre en application intérieurement et extérieurement. Sinon, c'est pas un témoignage correct. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit: وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا. Il dit cette grande parole, elle implique ou elle comprend une affirmation et une négation, ou une négation et une affirmation. C'est-à-dire que cette parole, elle est composée de deux parties, une affirmation et une négation. Le cheikh il explique, il dit fa nafat al ilahiyya an kulli ma siwa Allah bi qawlika la ilaha wa athbatat al ilahiyya lillahi wahdahu bi qawlika illa Allah. Qala Allah ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al aziz al hakim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, bon, le cheikh il dit en premier que dans le témoignage, il y a la négation premièrement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il y a l'autre partie qui est l'affirmation. L'affirmation de illallah, c'est-à-dire que c'est seulement Allah, lui seul, qui mérite d'être adoré. Et donc ces deux parties-là sont l'affirmation et la négation qui vont ensemble. Et il mentionne le verset 18 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, de même que les anges et les hommes de science, ceux qui détiennent la science, témoignent de son unicité aussi. Établi en toute justice, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça en toute justice, et il dit ensuite, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est le Tout-Puissant et le Sage. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, kalimatu tawhid la ilaha illallah laha ruknan, ruknun nafi la ilaha wa ruknul ithbat illallah, falau ji'ta bil ithbati faqulta allahu ilah ma thabat, walau ji'ta bil nafi faqat faqulta la ilah fahada ilhadun fala budda minal jam'i bayna nafi wal ithbat. مثل قوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيه نفي وإثبات وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيه نفي وإثبات فلا يكفي الإثبات وحده ولا النفي وحده. Donc le cheikh il dit que la parole du tawhid, le témoignage du tawhid, de l'unicité d'Allah, il est composé donc de ces deux piliers, le pilier de la négation, la ilaha, et le pilier de l'affirmation, illallah. Et donc, il dit, si quelqu'un disait pour l'affirmation, hein, il se limitait que à dire Allah ilah, Allahu ilahun, c'est-à-dire Allah c'est une divinité, ou c'est celui qu'on adore, ça ne serait pas suffisant, et tu n'aurais pas affirmé quoi que ce soit. Parce que pour que ton affirmation soit valable, il faut qu'elle soit rattachée à la négation. Hein? Et si tu ramenais que la négation seulement, et que tu disais « la ilah », hein, il n'y a pas de, il n'y a rien qui est adoré ou que tu dois adorer. Eh bien, ça, ce serait une forme d'athéisme, hein, ce serait une négation totale de toute divinité. Et dans ce cas-là, ce serait, hein, le contraire de la foi. Et donc, il faut que les deux aspects soient réunis ensemble pour que la signification soit complète et valable, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que l'adoration doit être à Allah seul. Et ça, on le retrouve dans plusieurs versets dans le Coran qu'on a mentionné déjà et que le cheikh explique encore, il mentionne encore une fois pour clarifier. Il dit, comme par exemple, Ani'budullah, ça c'est l'affirmation, adorer Allah seul, Wajtanibu al-Tarut, écartez-vous du Tarut, ça représente la négation. Et un autre exemple aussi, c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc quiconque renie le Tarut, donc ça c'est la négation, Wayu'min billah, et il croit en Allah. Donc ça c'est l'affirmation. Donc il y a toujours les deux qui sont ensemble. À chaque fois que Allah nous appelle à témoigner, hein, et à son adoration, il a toujours associé ensemble la négation et l'affirmation. Donc si quelqu'un il dit juste oui je crois en Dieu, ça suffit pas. Et si quelqu'un dit je rejette tout ce qui est adoré, ça non plus ça suffit pas. C'est au contraire même c'est un rejet de la foi. Parce que tu renies tout ce qui est adoré, même Allah. Hein? Donc ça c'est faux. Mais tu dois dire, donc, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Et c'est ça le témoignage de la ilaha illallah, il y a ces deux piliers-là dedans. Ensuite, le cheikh, il dit, par rapport au verset 18 dans sourate Al-Imran, la parole de par rapport à ce verset là Cheikh Al-Fawzan il dit wa hadhihi ash-shahada la ilaha illallah shahida Allah biha wa malaikatuhu wa ulul ilmi min khalqihi faman athbatat ma'a Allah ilahan akhar fa innahu mukhalifun li hadhihi ash-shahadati min Allah wa min malaikatihi wa min ulul ilm min khalqihi. Donc, le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Allah a fait ce témoignage-là pour lui-même, à propos de son unicité. Puis, les anges ont témoigné de son unicité aussi, ainsi que ceux qui détiennent la science parmi les hommes et parmi ses créatures. Ils ont témoigné de son unicité. Et comme les ulama l'ont expliqué par rapport à ça, ça c'est l'honneur qui revient aux anges de science. Parce que Allah les a mentionnés parmi ceux qui témoignent de son unicité avec les anges et avec lui-même. Donc c'est pour les honorer les ulama. Et il dit donc quiconque a donc affirmé, hein, une divinité en dehors d'Allah, eh bien il a contredit ce témoignage. Il a contredit le témoignage d'Allah, le témoignage des anges et le témoignage de ceux qui détiennent la science parmi les créatures. Naam. Et donc il dit, et on va terminer avec ça, le cheikh il dit لأنهم, non, le passage ici, le cheikh il dit فَكَمْ ضَلَّ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا مَنْ ضَلَّ وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ. Il dit combien de gens sont égarés à cause de l'ignorance qu'ils ont de la signification de la ilaha illallah, et ce sont la majorité malheureusement. Et le cheikh Al-Fawzan il dit لأنهم يقولونها بألسنتهم ويعتقدون أنها تنفعهم بمجرد اللفظ ويرددونها في الأوراد ولكن لا يعرفون معناها أو يعرفونه ولكن لا يعملون به وهؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله ولو رددوها عدد الأنفاس لأنهم ليسوا من أهلها. Hein? Donc le cheikh dit c'est la raison pourquoi ça leur profite pas et qu'ils le disent, ils se sont égarés à cause de leur ignorance de cette parole. Donc ils le disent avec leur langue, la ilaha illallah. Il y a des musulmans, ils disent la ilaha illallah toute la journée, hein, pendant toute leur vie. Et le cheikh il dit, ils pensent que cela va leur profiter parce qu'ils pensent que c'est juste la parole, de dire la parole tout seul qui est suffisante. Mais de dire cette parole-là sans la comprendre et sans la mettre en application, ça ne sert à rien. Hein? Ils le récitent dans les du'as, dans les adhkars, ils font le dhikr toute la journée, ils disent « La ilaha illallah ». Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et ils ne savent pas ce que ça implique. Hein? Et il dit « Ou bien ils le savent, mais ils ne l'appliquent pas ». Donc ça ne leur sera d'aucune utilité, même s'ils l'ont répété le nombre de fois qu'ils respirent. Hein? Ils ne font pas partie des gens de la ilaha illallah. Et juste pour exemple que je vais vous donner par rapport à ça, hein, un exemple de certains parmi les soufis et parmi les kuburiyins, ce qu'on appelle les kuburiyins, les adorateurs des tombeaux et des morts, qui adorent les shuyukh, hein, soufis, hein, et ceux qu'ils appellent des awliya, ou bien ceux qu'ils appellent aussi parfois même ce qu'ils appellent ils les appellent par toutes sortes de titres, les awliya, les qutb. En tout cas, je vais vous montrer quelque chose par rapport à ça, qu'un des mashaykhs, il a posté ça sur son compte, de voir que ces gens-là, ils font du shirk évident, là, de cette façon que vous allez voir. C'est tellement choquant. Oui, c'est ça. Vous savez que parmi les soufis, il y a plusieurs turqs, plusieurs groupes, plusieurs sectes. Et une des turqs soufis qui est peut-être la plus propagée en Afrique de l'Ouest, c'est la Tariqa Tijaniya. Okay? Et le fondateur de la Tariqa Tijaniya, son nom c'est Ahmed Tijan. Et Ahmed Tijan, cet homme-là, il est né dans le sud de l'Algérie, dans un village qui s'appelle Ain Mardi. Non, il n'est pas marocain. Il est né dans le sud de l'Algérie. Et il est enterré au Maroc. Il est enterré à Fès. Hein? Et les Tijaniyah, ils vont régulièrement à sa tombe. Hein? Et parmi eux, ils vont là-bas, puis ils font des du'as. Hein? Ils font des du'as. Et même parfois, ils invoquent Ahmed Tijan comme on invoque Allah. C'est-à-dire, ils oublient carrément Allah. Et ils demandent à qui? Ils demandent à Ahmed Tijan. Ça, c'est du shirk. Et ce n'est pas seulement un shirk comme ça, la mineure. Non, shirk akbar. Shirk majeur qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam. Donc, il y a un shirk qui a posté cette vidéo dans lequel ils sont réunis en train de faire des doigts comme ça. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit en arabe, c'est grave. Il est en train de dire Ya Ahmed Tijani, tout ce que j'ai de besoin, tout ce que je veux, je le mets dans ta main, je te le demande, à toi de me le donner et tout ça. Donc ça c'est du shirk clair, hein. Et puis dans une des parce que vous savez, comme c'est ces gens-là, que lorsque tu les appelles, il y a des gens comme ça, quand tu les appelles à la sunna, tu les appelles à la salafia, puis eux ils disent oui, mais Allah, il nous a pas appelé salafi dans le Coran, il nous a appelé musulmans, hein? Souvent ils disent ça, alors que le problème, c'est pas de savoir est-ce que la religion d'Allah s'appelle islam ou est-ce qu'elle s'appelle salafia. Hein? Dans le Coran, Allah, il a appelé sa religion islam. Il n'a pas appelé salafia. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsqu'on vient à la compréhension de qu'est-ce que c'est l'islam. Qu'est-ce que c'est la bonne compréhension de l'islam, la vraie compréhension de l'islam. Est-ce que c'est la compréhension des soufis? Est-ce que c'est la compréhension des Shia? Est-ce que c'est la compréhension des Rafida, des Mu'tazila? Est-ce que c'est la compréhension des Ikhwan? Est-ce que c'est la compréhension des Tablir? Est-ce que c'est la compréhension des Naqshbandi? Ou bien tu vas dire par exemple parmi eux les Tijaniya, ou bien tu vas dire même les Qadianiya. Vous connaissez les Qadianiya? Ceux qui disent que Ghulam Ahmad c'était un prophète, hein? Eux aussi ils se disent musulmans. Ils disent oui, on est musulmans. Les Ismaïliyas, ils disent qu'ils sont musulmans. Les Rafidas, ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent tous qu'ils sont musulmans. Donc on se pose la question maintenant. On dit que le nom de la religion c'est l'islam, on est tous d'accord. Ces gens-là, ils se disent musulmans et nous, on se dit musulmans. Est-ce qu'on est sur le même islam? Leur islam, ça n'a rien à voir. Dans leur islam, il y a du kufr, il y a du shirk. Ils prient à des morts, ils prient à des tombes. Ils croient à des gens qui sont venus après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est leur prophète. Puis ils se disent musulmans. Et ils font la salat. Est-ce que c'est ça l'islam? Est-ce que c'est ça la compréhension de l'islam? Et on se dit, on est musulmans. Alors, il faut comprendre que quand on dit qu'il faut suivre la salafia, pas parce que c'est quelque chose de différent de l'islam. La salafia, c'est la compréhension de l'islam telle qu'elle a été comprise par les premières générations, en commençant par les sahaba et ensuite les tabi'in et les tabi'in, les trois générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréées, hein, et qu'il a mentionné à leur sujet que c'est les trois meilleures générations. Il a dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum ». Donc la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Hein? Donc tout ça c'est des exemples. Et puis après, juste comme ça pour argumenter comme ça avec eux, je leur ai posé la question. Parce que tu vois par exemple des gens qui sont par exemple Tijaniya, qui font partie de la tariqa Tijaniya. Okay? Quand les Tijaniya disent nous on est Tijani, je suis allé sur un site ou une chaîne YouTube de Tijaniya, de la tariqa Tijaniya. Ils ont mis une vidéo dans laquelle ils font leur dhikr mubtadi', yani leur dhikr selon la bid'a. S'assoient, ils mettent le drap par terre, ils mettent leur parfum sur le drap et là ils commencent. Ils font tous le dhikr d'une même voix, à l'unisson, en même temps. Et ils commencent à dire un peu comme ils font là au Maroc. C'est de ce style-là, hein? Tous en même temps. Et puis dans les notes de bas de page, dans les commentaires en dessous de la vidéo, voici ce qui est des exemples de ce qui est écrit. Que le bon Dieu nous donne la chance d'être Tijani. Et dans une autre, l'autre en dessous, Tijani a une solution pour le monde. Merci à Cheikh Ahmadou Tijani. L'autre commentaire en dessous, Sayyid el Cheikh Ahmad Tijani, le pôle caché. Hein? Dans une autre commentaire, que du bonheur à écouter, j'aime. Qu'Allah nous fasse être de vrais disciples Tijaniya. Un autre commentaire. Merci à Cheikh Ahmed Tijan. Comme si ils oublient même l'islam, ils oublient même la sunna, ils oublient toutes ces choses-là. C'est juste eux, c'est, on dirait que leur prophète, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ahmed Tijan. Comme les chrétiens. Exactement. Et eux, il n'y a personne qui vienne leur dire hey, vous, pourquoi vous ne dites pas islam? Pourquoi vous dites Tijaniya? Mais c'est juste quand c'est des salafis qui appellent au Coran et à la sunna selon la compréhension des salafs, hein, et qui rejettent les bid'a et le shirk et le kufr, on vient pour leur dire il ne faut pas dire salafia. Mais c'est ça. Le pôle caché. Il y a un des commentaires qui disait le pôle caché. C'est quoi ça le pôle caché? Quand tu regardes dans les définitions des soufis, voici qu'est-ce qu'ils disent par rapport au pôle caché. Le pôle caché, dans la hiérarchie de la sainteté, c'est un échelon, c'est l'échelon le plus élevé. Ils sont 14, dont les 7 sont appelés Aqtab. Les 7 autres, Mafatih al-Kunuz, hein, les détenteurs des trésors divins. Et selon les enseignements d'Abdul Aziz Dabbar, l'auteur des paroles dans son livre d'égarement, Kitab al-Ibriz, sous la signature de son disciple Ahmad ibn Mubarak, il dit ils disent, notre cheikh fondateur de la Tidjaniya est désigné sous le titre de Qutb al-Maktoum, ou le pôle caché, en ce sens qu'il lui a été conféré par Allah la station la plus élevée dont les attributions ne sont connues que du prophète et d'Allah, la Katmiya. Il dit, il est aussi Qutb al-Maktoum, parce qu'il est aussi le sceau de la sainteté muhammadienne. Ce qui signifie que de toute éternité, tous les saints sont sous sa coupe. Hein? Et il dit, mes deux pieds que voici sont sur l'enclure de tous les saints, depuis notre ancêtre Adam jusqu'au jour où l'on soufflera dans la trompe. Hein? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il dit. Et après, il dit, le chef des walis, à chaque époque, est appelé Qutb. Hein? Donc, il dit, il est obligatoirement Tidjan. Le chef des walis, c'est un Qutb, on l'appelle Qutb, il est obligatoirement Tidjan. C'est un privilège de la tariqa. C'est-à-dire, tous les chefs des awliya, ils doivent être absolument de la tariqa Tidjaniya. Alors que c'est une tariqa qui existe seulement depuis 1800. Les années 1800, avant ça, elle n'existait pas. Ils disent même que c'est une des plus jeunes parmi les turuq soufis. Et regardez, malgré tout, qu'est-ce qu'ils prétendent. Ils prétendent qu'il est le Khatim al-Awliya. Et ils prétendent que le Khatim al-Awliya est meilleur que Khatim al-Anbiya. Hein? C'est ça qu'ils prétendent. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils pensent que il a un contact direct avec Allah, il n'a pas besoin de passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par la sunna. J'ai rencontré un même ici, parmi les soufis de la tariqa Tijaniya, un des frères du chef de la tariqa au Sénégal, les élèves de Ibrahim Nias. Son frère, celui qui était le chef avant, s'appelait Hassan Sissé, il est mort maintenant. Là, c'est son frère qui a la tariqa maintenant. J'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, il s'appelle Sissé lui aussi, son autre famille. Mais son frère est ici à Montréal, Bachir Sissé. Je l'ai rencontré. Il est marié avec une juive. Hein? Et il dit, mon frère, il a reçu le Kun Fayakun. Mon frère, il a reçu le Kun Fayakun. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit le Kun Fayakun. Kun Fayakun, c'est Allah. Hein? Quand il dit, c'est. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, lui, il a dit, il a reçu le Kun Fayakun. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il dit, j'ai dit, mais pourquoi vous prétendez que dans votre tariqa, si quelqu'un est dans votre tariqa, il doit délaisser tous les saints ou les awliyas de toutes les autres turuq. Il doit uniquement visiter les awliyas de la tariqa Tijaniya. Il dit oui, parce que Cheikh Ahmed Tidjan, il avait un fil direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas besoin de passer par d'autres. Yani, tout ça, c'est des bid'ah, c'est du shirk, c'est de l'égarement. Hein? Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'ils disent. Puis après, ils disent, en remarque en dessous, les paroles de notre cheikh, aucun wali ne les a jamais contredites. C'est normal, ils sont tous morts avant lui. Son statut de chef des walis de tous les temps n'a jamais été remis en cause par aucun saint. Y compris ceux qui ne sont pas de sa confrérie. Elle est n'importe quoi. Mais il y a des gens qui croient en ça. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est pour dire, Yanni, parmi les explications aussi, bon, ils disent, le cheikh veut signifier que les pôles sont non seulement une catégorie de saints, mais qu'ils sont les plus élevés d'entre eux et qu'ils en constituent l'élite la plus pure. Ces saints ont reçu le nom de pôles parce que les étoiles du monde supérieur et inférieur gravitent autour d'eux, qui sont les pôles de leur époque, aussi parce que le pôle est le lieu sur lequel se pose le regard du Seigneur. C'est par lui que Dieu regarde le monde, qui ne saurait, sans son existence, suivre son cours normal. ni accepter le soutien divin qui assure pourtant son existence. La grâce divine ne parvient à ce monde que par l'intermédiaire du pôle. Celui-ci reçoit donc son soutien de Dieu et soutient à son tour le monde dans son ensemble, le haut comme le bas, les corps comme les esprits. Le pôle possède en effet un esprit autour duquel tous les esprits des créatures et un corps autour duquel évoluent toutes les formes, car il met les esprits en mouvement à l'aide de son propre esprit et les formes à l'aide de sa propre forme. C'est pas du shirk ça, c'est pas de l'égarement total. Même les chrétiens ils croient pas en des affaires comme ça. Exact. Un autre exemple ici, qu'est-ce qu'il mentionne à propos du pôle? Il dit, le célèbre pôle Abul Hassan al-Shadhili a dit, le pôle possède 15 signes distinctifs. Hein? Et essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il a donné comme les signes distinctifs. Essayez de voir si vous êtes capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que la plupart de leurs paroles, c'est du charabia. Hein? Il dit que celui qui prétend les posséder en totalité ou en partie démontre qu'il a reçu l'aide de miséricorde, l'impeccabilité, la lieutenance, la délégation, l'aide des porteurs du trône céleste. Bon, l'impeccabilité, la lieutenance, la délégation, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il parle exactement. L'aide des porteurs du trône céleste, comment, c'est les anges, hein? Donc il faut qu'il démontre qu'il a reçu l'aide des anges porteurs du trône céleste. Qu'il montre que la réalité de l'essence englobante des qualités, qu'il montre qu'il a reçu le don de juger et de discerner entre les deux existences, de distinguer le premier du premier, ainsi que ce qui en dérive jusqu'à l'extrême limite du rayonnement épiphanique, et ce dont l'existence distincte est posée au sein de ce rayonnement, de connaître le caractère de ce qui vient avant, de ce qui vient après et de ce qui n'est ni avant ni après. Qu'il montre enfin qu'il a reçu la science du commencement, c'est-à-dire la science qui englobe toute connaissance et toute chose connue et ce qui s'y rapporte. Donc, ça c'est les critères pour être le pôle. Ben, c'est-à-dire, d'après eux, il faut, pour être le pôle parmi les soufis, là, parmi les chouyours soufis, c'est ça, eux, ils prétendent ça. Et là, quand tu arrives à ce point-là, c'est comme si tu es devenu comme une divinité, là. Tu connais le Rayb, tu as le contrôle de l'univers en dehors d'Allah. Donc, ça, c'est pour dire que toutes ces croyances et ces idéologies-là, on les retrouve chez des gens qui se disent musulmans aujourd'hui et ils croient en ces croyances de kufr et de shirk. Et ils disent « La ilaha illallah » toute la journée, ces gens-là. Ils prononcent « La ilaha illallah » tout le temps. Et pourtant, ils disent des paroles de kufr et de shirk et ils invoquent des créatures en dehors d'Allah et ils pensent que ça c'est suffisant et qu'ils sont des musulmans. Donc, on voit ici l'importance d'étudier le tawhid et de le comprendre comme il faut et d'être capable de distinguer qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam, de qu'est-ce que ces gens-là sont en train de pratiquer et d'enseigner au nom de la religion d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.